Bienvenue. Si vous êtes là pour la première fois au centre, un particulièrement bienvenu. Vous verrez, c'est une famille et on est tranquille. Voilà, donc sentez-vous comme chez vous, comme à la maison. C'est la maison de tous, c'est la maison du Seigneur, c'est notre maison. Et soyez les bienvenus ici. Donc je suis content, nous sommes contents d'accueillir Hervé. Voilà. Il y a un vieil adage qui dit « les amis de mes amis sont mes amis ». C'est particulièrement vrai pour Hervé, parce qu'il est ami avec un très vieil ami. Et ça fait longtemps que j'avais envie qu'Hervé vienne partager chez nous, mais son emploi du temps balade beaucoup. Donc on a réussi à trouver une date après un an et demi, mais c'est super. Non, mais c'est bon, pas de souci. Donc je suis vraiment très content que tu sois avec nous, Hervé, pour tout ce week-end. C'est vraiment super. Je vous propose qu'on puisse prier. On ne va pas avoir tant de louanges, mais... Je pense que nous pouvons remettre ça dans la prière, ce temps, et puis que le Seigneur nous guide. Ça, j'en suis certain, mais en tout cas, je le remercie. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci parce que tu es là. Merci parce que quand tu es parti, avant de mourir sur la croix, tu as dit, il est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ça fait 2000 ans que tu as déversé l'Esprit Saint sur ton Église. Merci pour le mouvement de l'Esprit qui s'est répandu depuis plus de 100 ans parmi le monde, où tu as voulu par ton Esprit renouveler, réveiller, restaurer, faire grandir ton Église. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Et nous sommes au privilège et au bénéfice de tout ce mouvement. Merci Seigneur pour ce temps et c'est vrai, on va parler de toi Saint-Esprit. On va parler des dons que tu nous donnes, des paroles, des prophéties, de comment tu nous équipes. Mais avant d'être dans une relation de fonctionnement, entre guillemets, on voudrait vraiment dire qu'on t'aime, Saint-Esprit, et qu'on t'adore. Et que c'est tellement bien d'avoir l'Esprit Saint dans notre cœur, le matin et le soir, en se couchant. C'est tellement bon d'avoir cette présence de l'Esprit avec nous tout le temps. Soit au travail, à la maison. Je veux vraiment te dire merci, Saint-Esprit. Et je demande pardon quand on ne se souvient pas assez de toi et qu'on ne t'honore pas assez. Et nous voulons vraiment te bénir, t'adorer, te remercier. Et merci pour tout ce que tu vas dire et nous enseigner pendant cette journée. Amen.
Voilà, je crois que c'est bon. Par contre, il faut savoir mettre ça quelque part. Voilà. En tout cas, très content d'être avec vous. Alors, je m'appelle Hervé Guillois. J'habite Carcassonne, la plus belle ville au monde. Après Nîmes. Oui, j'en suis au vin quand même ici. Non, c'est juste pour tester. Ok. Donc, c'est vrai, je suis marié, 4 enfants, 4 petits-enfants. Donc je suis un papé, un grand papé, papy, et très heureux de l'être. C'est la meilleure place, parce qu'on peut s'occuper de nos petits-enfants, et on accepte tous deux que nos enfants étaient un peu plus difficiles. Donc Dieu m'a donné un ministère prophétique. Bon, on ne se nomme pas prophète, c'est les églises qui nous reconnaissent, et les autres ministères. Et je voyage dans beaucoup de pays, beaucoup de nations. Alors, je fais l'Afrique noire. Sénégal, Mali, Rwanda, Burundi, j'ai fait Madagascar, j'en reviens depuis peu, là. Les îles de la Réunion aussi, l'île Maurice, tout l'océan Indien. Puis je suis allé aussi beaucoup plus loin encore au Népal. Et puis, après, je vous cite un peu tous les endroits très rapides quand même. Je suis tellement surpris de tout ce que j'ai visité, mais voilà, je suis plus souvent en avion que sur la terre, quoi, entre le ciel et la terre. Souvent, je dis ça aux gens, mais c'est vrai, un jour, j'entends 15 000 pieds. Donc, ça veut dire que j'ai déjà arrivé à 15 000 pieds plus près de Jésus que vous. Non. On ne sait pas dans l'avion. Hein. Voilà tout ce qui peut arriver. Puis après, j'ai fait aussi la France, bien sûr. J'ai fait l'Espagne. J'ai fait l'Italie, la Suisse, la Belgique. J'essaie de suivre... le chemin. J'ai fait aussi les pays Oxford en Angleterre, je suis allé aussi à Édimbourg en Écosse, où j'ai fait quoi ? Israël, j'ai fait aussi dans les pays arabes, Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis, le Liban aussi. Enfin voilà, beaucoup d'endroits. Et il y a une des choses que j'aime dire, c'est que partout où je vais, on rencontre le même esprit. Il n'y a qu'un esprit. C'est-à-dire que même moi qui parle aucune autre langue que le français, j'ai l'impression d'être dans la maison et dans la famille. Parce qu'il y a le même esprit. Et souvent, quand on est dans notre église et qu'on a notre secteur, on n'a pas cette vision grande de ce que Dieu fait. Et on voit tout ce qui se passe à l'intérieur, tous les bibis, les bobos, les choses qui ne vont pas. Mais quand on commence à voir comme Dieu fait, et la chance que j'ai, c'est d'aller visiter tous ces pays, on se rend compte comment Dieu est grand et puissant. Et j'ai jamais vu, en mes voyages, autant de conversions, autant de gens se donner à Christ que dans cette période, autant de musulmans se donner à Christ. C'est extraordinaire. En France, on a l'impression du contraire. Mais quand vous allez dans tous ces pays, même les pays arabes, de voir même des fils de cheikh qui se sont convertis avec moi, des choses extraordinaires, des imams, de voir comment Dieu se révèle partout. Et combien il manifeste sa puissance. Alors je crois que l'esprit est en train de se mouvoir de partout. Et on voit beaucoup de choses se passer. Donc ça, c'est important de vous dire ça. Et je suis heureux de voir que l'Église commence aussi à se mettre en route, à vivre les choses que Dieu lui a données. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on vivait, comme il a expliqué, Pascal, dans un fonctionnement purement humain, associatif, et puis finalement Dieu n'y était pas, quoi. Et ça me rappelle un souvenir, juste ça, j'aurais beaucoup d'exemples à vous dire avec tout ce que j'ai fait comme voyage, mais un des exemples c'est qu'un jour j'étais dans une église la plus top du top. Pour les gens qui font la sono, ils diraient, waouh, dans cette église il y avait un ingénieur du son en plus, une sono, quand le prédicateur ou les gens parlaient, même que c'était très bas le son, on entendait comme si la personne était à côté de nous. Un réglage et une isolation dans la salle, quelque chose d'acoustique, d'extraordinaire. Et j'étais étonné, des fauteuils magnifiques, relax, on dormait plus qu'on écoutait. Il y avait tout ce qu'il fallait dans l'église pour tout le monde. Il y avait des comptoirs avec tout. Tous les gens qui venaient, ils avaient à manger, à boire, ils pouvaient avoir des logements. Tout était très organisé. Une louange, le top du top. Ah, quand on écoutait la louange, je disais, Seigneur, mais pourquoi je suis là ? Ils ont tout, Seigneur. Et Dieu m'a dit, dis-leur que je ne suis pas là. Et c'était terrible. J'ai dit, écoute, Seigneur, je ne peux pas dire ça. Ils sont tous ici. Tout est super à mes yeux humains. Mais aux yeux de Dieu, il n'y était plus. Tout était un grand fonctionnement. Il y avait les moyens, il y avait tout. Et j'arrive sur l'estrade après cette belle louange que j'aurais tellement aimé la voir dans beaucoup d'endroits. Puis, je mets sur l'estrade et je dis, Jésus n'est pas là. Là, j'ai eu comme des revolvers dans les yeux. Et c'était terrible. Et je crois que c'est vrai, on peut tout fonctionner avec un système, mais si Dieu n'y est pas, ça ne sert à rien du tout. Si vous n'avez pas vu. Voilà. Alors, j'aimerais quand même partager, avant d'aller plus loin, c'est dans Éphésiens au chapitre 5, versets 15 à 21, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le verset 18. Il est dit, soyez, il l'affiche, non, il l'affiche pas, c'est bon. Soyez remplis de l'Esprit. C'est écrit cette chose, comme il a parlé, soyez remplis de l'Esprit. Et je crois qu'on a le choix entre trois manières de vivre. La première consiste à faire notre volonté par notre force. Et comment on peut appeler cette démarche ? Faire notre volonté par notre force. Comment vous pouvez l'appeler, cette démarche ? Qui veut répondre ? Comment ? Religion ? Si ? Voilà, de l'humanisme. Parce que il y a des églises qui fonctionnent comme ça. Consiste, ils font leur volonté, mais par leur force. Puis la deuxième des choses aussi qu'on peut vivre, c'est de faire notre volonté par la puissance de Christ. Comment on peut appeler ça ? Notre volonté par la puissance de Christ. Comment ? Manipulation. Il y a un mot qui résume. Il avait cité tout à l'heure. La religion, tu l'avais cité tout à l'heure. La religion, ce sont des religieux, on fait notre volonté, mais pas la puissance de Christ. C'est-à-dire, on dit toujours Dieu a dit, mais c'est toujours notre volonté qui fonctionne, comme l'église que j'avais vue. Et la troisième des choses, et je crois que c'est la bonne, c'est de faire la volonté de Christ par la puissance de Christ. Et comment on appelle ça ? Faire la volonté de Christ par la puissance de Christ. C'est la vie abondante. C'est exactement ce que Paul a dit. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Ce n'est pas juste à un moment donné quand je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le chamallow. Pardon de vous choquer. Hein. Mais des fois, beaucoup de gens parlent comme ça en langue, puis finalement, ils ne vivent rien du tout, quoi. Non, c'est bien plus que ça. C'est tous les jours de notre vie, dans notre fonctionnement, dans notre quotidien, dans notre travail, dans partout où on est, c'est de marcher rempli de l'Esprit. L'Esprit de Dieu parle continuellement. C'est le plus grand des bavards, vous saviez. Plus que moi, je parle beaucoup, mais voilà. Et quand on regarde le temps du verbe, utilisé dans la version grecque, c'est l'impératif présent continu qui veut dire « laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit ». Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Constamment, tout le temps. Ce n'est pas juste parler en langue, c'est ouais, des fleuves d'eau vive coulant de nous. La puissance de Dieu, qu'importe où tu vas, qu'importe ce qui se passe, qu'importe les pressions spirituelles, tu as l'Esprit de Dieu. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi ? Bien sûr qu'il y a des persécutions, bien sûr qu'il y a toutes ces choses, mais quand tu es rempli de l'Esprit, je sais qu'on a des victoires extraordinaires. Et quand on le vit dans notre quotidien, dans notre marche de tous les jours, c'est une vie autre, n'est-ce pas ? Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc on a besoin de cette puissance. C'est vrai qu'on reçoit l'Esprit à notre conversion. Ça, ne mettez jamais en doute ça. Il y en a qui m'ont dit, ah, parce que je parle pas langue, je ne suis pas converti. Mais je dis, c'est faux. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as l'Esprit de Dieu. Mais je parle aussi de cette puissance, de ce manteau qui est mis sur toi après, pour pouvoir arriver dans toutes les situations de ta vie à avoir des victoires. Apprendre. Alors on n'y arrive pas toujours, mais on apprend. Et c'est par notre marche avec lui qu'on fait des expériences et qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas. Donc ça c'est important et je voulais juste commencer par ça avant d'aller plus loin. Soyez remplis de l'Esprit. Je crois que beaucoup trop de gens ont l'Esprit quand ils viennent à l'église, au rassemblement, puis après ils ne l'ont plus. C'est dommage. Alors c'est que ailleurs, quand Dieu veut se servir de nous. Dans l'église, c'est bien, on est tous ensemble, c'est un milieu protégé, mais dehors. Je crois que Dieu veut nous apprendre tout ça. Et Dieu, au travers de l'Esprit, va nous communiquer des dons, communiquer sa puissance, son autorité, pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Gagner et reprendre tout ce que Satan a volé. On aurait tellement de choses à dire sur tout ça, mais voilà, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'aimerais vous passer un petit film avec mon technicien professionnel là-bas. Et on va juste, je vais l'expliquer avant de le faire passer. C'est transformer notre être pour transmettre la puissance de Dieu. Donc, on peut regarder dans Romains 12, 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent » mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut renouveler notre esprit, notre intelligence, pour qu'on puisse arriver à travailler avec lui, à collaborer avec lui, à marcher avec lui. Et on a besoin d'un changement en nous. On a souvent converti « donne ton cœur à Jésus », mais on n'a pas donné notre tête à Jésus. Et je pense que c'est notre tête qu'il faut donner à Christ pour que notre cœur change. Parce que la plupart des gens ont accepté Christ, mais ils sont toujours pareils après 20 ans et 30 ans de conversion. Moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie que, ouais, on marche comme Dieu veut qu'on marche. Je crois que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Vous êtes d'accord avec moi ? Puis il est dit qu'il est monté au ciel, il a répandu son esprit pour nous changer et nous communiquer ses dons et sa puissance. L'Esprit de Dieu a été répandu sur toute chair. L'Esprit de Dieu est répandu sur toute personne. Et pour cela, il veut nous apprendre et nous changer pour qu'on ne puisse plus vivre nous, mais que ce soit lui qui vive au travers de nous. Vous connaissez ce verset ? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que si Christ vit en toi, tu es Jésus. Waouh, je fais un blasphème. Et pourtant, c'est tellement la vérité. Si c'est Christ qui vit en moi et je suis héritier et co-héritier avec lui, ça veut dire que je dois marcher comme lui. Partout où je vais, c'est les gens doivent voir Jésus. Donc, on va regarder un petit film. Ça va ? Et après ça, je continuerai pour vous expliquer. Vous avez le droit de rire, hein, aussi, avec.
He had built a special bicycle, and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on a bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this.
And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Dustin Salmon. First attempt riding the bicycle.
See that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding the bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often. But I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick, or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy. I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it.
No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way.
Yeah.
Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway, and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day, I couldn't ride the bike, and the next day, I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird, though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck, but at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut.
Are you going to give up?
No.
Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So he, in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity. Am I even saying that right? Than an adult.
It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child.
All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. Thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle, and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards, it's backwards.
This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but at this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I've proved is that I can only redesignate that bias.
So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned.
All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment.
Got it. I'm back. Oh, it clicked. Hold it, clicked. I got it. Okay, there it is. There's the moment. Okay, I can run by.
I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me.
That looked like I faked that, didn't it?
Yes.
Just a fake. You think I'm faking? You don't believe
me. It's been so weird.
You think I'm lying, don't you? I'm not lying.
I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things, because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You get smarter every day. Have a good one.
Okay, if you want to support Smarter Every Day, you can download a free audiobook at audible.com/smarter. I recommend Commander Hadfield's book, which is An Astronaut's Guide to Life on Earth. I read it. It was awesome. If you think about it, I had to learn how to ride a different kind of bicycle, and my son did as well. But Commander Hadfield had to learn how to ride a different spaceship. Not only that, but a different type of space station. He was on Mir and the International Space Station. Anyway, if you're interested in supporting Smarter Every Day, audible.com/smarter, An Astronaut's Guide to Life on Earth. I'm Destin. Get smarter every day. Have a good one.
Voilà, c'est bon. Voilà, peut-être vous. J'ai voulu passer ce film. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est dans le monde, hein, c'est un film comme ça. Mais c'est pour montrer qu'on a aussi notre ancienne manière de vivre avant de connaître Christ, Mais quand Christ vient en nous, il faut le laisser nous transformer pour avoir la même pensée que lui. Ça voudrait dire que si aujourd'hui on vivait comme Christ vivait, on n'a plus besoin de prophète, même si Dieu a donné des ministères pour faire rentrer les gens dans leur appel, mais chacun d'entre nous devrions avoir la pensée de Dieu dans tout ce que nous ferons, les choix, notre direction, et on apprend ces choses. Je crois que c'est un petit peu vivre comme dans un autre monde quelque part, c'est-à-dire vivre comme au moment de la transfiguration. Vous connaissez dans Matthieu 17 quand il dit qu'il a été transformé, en Luc c'est parlé métamorphosé, changé. Jésus a été complètement changé et c'est une autre façon. Dieu nous change complètement pour vivre sur la terre ce qu'il vivait lui, pour vivre sur la terre ce qui est dans le ciel, pour que le ciel soit sur la terre. Vous connaissez notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu qui est parfaite là-haut doit s'accomplir sur la terre, au travers de son peuple. On a beaucoup à apprendre et beaucoup à changer, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu veut vraiment nous transformer pour nous faire rentrer dans ces choses qu'il a préparées. Sa volonté, c'est de lui ressembler, de marcher avec lui, de chaque jour collaborer, travailler avec lui dans tous les domaines de notre vie. Je crois que c'est important. Dieu veut vraiment nous montrer des choses. Je vous donne un des exemples, c'est pas loin d'ici, c'était à Perpignan. Il y avait un homme qui était africain, donc de couleur de peau noire, et puis il était ingénieur. Il avait les mêmes diplômes que tous les Européens, que tous les gens d'ici. Il avait même des capacités extraordinaires, mais il ne trouvait jamais de boulot parce qu'il avait une couleur de peau qui n'était pas celle des gens de Paris-ci. Et puis, on ne lui donnait pas, on ne regardait pas à ses capacités, mais à sa couleur. Et je lui ai dit une parole, j'ai dit, écoute, installe-toi à ton compte et tu vas embaucher beaucoup de blancs. Le gars s'est installé, il a fait les panneaux voltaïques, vous savez. Et c'est devenu très important. Il a innové des choses nouvelles, il a commencé à ouvrir sa boîte, et là, il y a un incroyable nombre de blancs qui viennent travailler chez lui. C'est comme une revanche, c'est de marcher avec Dieu. Quelle est ta pensée, Seigneur, pour que je puisse vivre le ciel sur la terre? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, on doit collaborer avec lui. C'est quelque chose d'important. Donc, j'aimerais vous expliquer collaborer. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, verset 13, il est dit, c'est une formule de politesse de Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion ou la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Paul rappelle, disait que cette communion, cette collaboration avec Dieu soit avec vous tous, soit continuellement dans tous les domaines. C'était plus qu'une formule de politesse. Je crois que Dieu veut nous apprendre à parler avec lui. Vous savez, c'est comme un téléphone. Vous savez, quand on va dans les pays d'Afrique, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, mais tout le monde a le téléphone. Et ça marche partout. C'est un moyen de communication. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut communiquer avec nous, il veut qu'on soit branché continuellement avec lui dans tous les domaines de notre vie. Et c'est important. Je crois que Dieu veut ça. Je crois que c'est une question de survie spirituelle. Si tu veux vivre dans la période où tu es, il faut être rempli de l'esprit et communiquer avec lui. C'est important. Être rempli d'esprit. C'est très important. Je passe vite sur ces sujets parce que c'est important. Donc je pense qu'on pourrait dire que la mesure de notre foi est directement proportionnelle à notre communion avec le Saint-Esprit. C'est dit dans la parole, prophétisez avec la foi que Dieu t'a donnée. Travaillez avec cette foi que Dieu... Cette foi doit se développer, doit grandir. Donc je crois qu'on peut dire que, oui, c'est directement... Notre mesure de notre foi est directement proportionnelle à notre communion avec l'Esprit. Apprendre à se laisser conduire par lui. Par exemple, moi, Dieu me donne des paroles pour des pays, des nations, pour des personnes individuelles. Pour moi, il n'y a aucun doute dedans. Je sais que Dieu le fait au travers de moi. Donc, je ne réfléchis pas, je ne pense pas, mais l'Esprit de Dieu fait au travers de moi. Et on doit et on devrait arriver dans tous les domaines à être comme cela. Et c'est tellement important. La prière, par exemple. Souvent, les gens, quand ils font des réunions de prière, ils font beaucoup, beaucoup de veines redites. J'appelle ça comme cela, comme la Bible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sujets à apporter, mais on n'écoute pas ce que l'Esprit a sur son cœur. Alors moi, je me rappelle une fois, c'était à Carcassonne, je ne suis pas souvent dans mon église, puis un des anciens dit « Hervé, t'es là, tu vas faire la réunion de prière. » Écoute, c'était en semaine. Bon, j'ai dit « Ok ». Alors, moi, il me dit « Tu conduis la réunion », ça voulait dire « Voilà, je vais essayer d'aider les gens à rentrer dans ce que Dieu veut, quoi. » Oui, mais j'ai à peine arrivé, tout le monde s'est mis à prier, alors tous les bibis et les bobos qu'il y avait, ils les ont cités, quoi. Et puis, j'étais mal, et je ne pouvais pas participer avec eux, j'étais mal. Je dis, pourtant, ils avaient tous du cœur dans la prière. Puis, d'un seul coup, je prie en langue et j'écoutais Dieu, et Dieu dit, dis-leur d'arrêter de prier. Ils ne prient pas comme moi je veux. Et puis, j'avais du mal à faire ça, parce qu'ils étaient tous tellement engagés, fidèles. Ils avaient donné ce temps pour pouvoir prier, intercéder. Puis je me suis mis à crier, « Stop ! Arrêtez !» Alors là, c'est comme si j'avais jeté un seau d'eau glacée sur les gens. Vous imaginez, tous les gens, ils étaient complètement bloqués. Pourquoi Hervé nous fait ça ? Je dis, « Je crois que vous ne priez pas selon Dieu. » Et le temps que je priais en langue, pendant que les autres faisaient leur veine redite, Dieu m'avait montré à ces moments-là de prier pour une nation. Et pour lui, le cœur de Dieu, c'était cette nation-là qu'il fallait prier. C'était important de prier pour cela. Parce que c'était, si on pouvait passer ce temps, c'était le moment favorable pour Dieu. Mais tout le reste, bien sûr que c'est important, mais pour ce moment-là, c'est ça que Dieu voulait. Et au moment où j'ai demandé de prier pour ça, personne ne pouvait prier. J'ai dit alors, priez en langue. Puis écoutez Dieu, il va vous convaincre dans votre cœur. Et après, les gens ont commencé à prier. Et là, c'était puissant. On sentait la présence de Dieu ici dans la pièce. Parce que les gens priaient selon l'Esprit. Et souvent, nous avons des tas de listes, des tas de choses. Bien sûr que c'est des besoins, mais quand vous commencez à vous occuper des autres choses, votre besoin disparaît, vrai ou faux? Et souvent c'est comme cela. Nos bibis et nos bobos deviennent tout petits. Et l'important, c'est de commencer à prier selon ce que Dieu veut. C'est très important. Le Saint-Esprit nous communique aussi des fois de pleurer avec lui. Ça m'est arrivé aussi une fois de mettre à pleurer avec l'Esprit de Dieu. Je me rappelle, je faisais la sono aussi dans l'église parce que il n'y avait personne. C'était des grands-mères qui m'ont dit à cette époque-là, écoute, quand le pasteur il parle dans son micro, on n'entend rien. C'est vrai que ce n'était vraiment pas quelque chose de très bon. J'ai tout fait l'installation et puis j'étais au bout. Quand d'un seul coup, en train de faire la sono, visité par Dieu, et je me mets à pleurer. Je dis, mais c'était incroyable. Les gens, ils disent, oh, Hervé, il est malheureux, il a du mal. J'étais pas malheureux, et je leur dis, je suis pas malheureux, mais je pleurais, et je mouillais le sol. Parce que c'était l'Esprit qui pleurait au travers de moi à cause d'une situation dans l'Église qui n'était pas à sa gloire. Et j'étais tout nouveau converti, je m'en rappellerai. Alors, on ne m'écoutait pas trop, parce que j'étais le dernier arrivé, quoi. C'était comme ça, mais d'un seul coup, j'apprends qu'il y a une personne qui était ministère prophétique, qui avait un cancer du foie. Et puis, en fait, je pleurais pour elle, Dieu m'a révélé. Et puis, j'ai dit, Dieu me montrait, c'est une question qu'elle avait péché contre le Saint-Esprit. Elle avait péché. Elle était prophète, mais elle était dans le péché. Vous savez quoi? Elle ne pouvait pas, elle est décédée maintenant, et son mari aussi, donc plus de problème. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis, elle a décidé d'aller avec un ancien de l'église, coucher avec. Elle s'est retrouvée enceinte. Puis, après, elle s'est fait avorter, parce qu'elle a trouvé que ce n'était pas bien. Alors, Dieu me révèle ça à moi. C'était un fardeau incroyable, parce que cette femme était tellement bien aimée dans l'église. C'était la seule qui avait le droit de prophétiser. À cette époque, c'était comme cela. Hein. Et puis, Dieu me révèle cette chose. Et je pleurais à cause de ce péché. Puis, après, il décide de faire un jeûne pour elle. Et j'ai demandé, est-ce que je peux aller au jeûne avec vous? Jeûne et prière. Ils m'ont dit, oui, on ne peut pas t'empêcher, comme on m'a fait. Je dis, bon, c'était déjà bon, bien fermé et tout. Et puis, de nouveau, Dieu me montre cette chose. Et là, je dis, il faut que j'aille voir le responsable de l'église et je vais lui dire. Donc, je suis allé le trouver. Et là, il m'a dit, ras-le-bol de toi. Comment tu peux dire une chose pareille? Tu dis du mal de quelqu'un. Et moi, j'ai dit non. Je montre pourquoi elle a ce cancer. Et c'est à cause de ça. Et puis, voilà, j'explique. Il m'a dit, non, tu ne dis rien. Mais tu vas venir voir cette femme avec moi et tu vas lui dire devant, avec moi. Et on verra. Et après, tu arrêteras de donner des prophéties comme tu le donnes, quoi. Chaque dimanche, Dieu me parlait. Chaque fois, le pasteur me renvoyait à ma place. J'ai vécu toute une école très bonne aujourd'hui, je te dis, mais sur le coup, je rigolais pas. Et puis, cette chose arrive. Donc, j'étais à genoux pendant le jeûne et prière et je pleurais. Puis, j'ai dit ça au pasteur. Et après, le pasteur m'a demandé d'aller la voir, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, au moment où je devais la voir, j'ai pris une demi-journée de congé pour pouvoir aller la voir. Et puis, je suis allé. Je me rappelle, c'était une grande maison de maître. Il fallait monter des escaliers. Je tremblais d'aller voir cette femme. J'avais prié. J'avais dit, Seigneur, si ce n'est pas de toi, tu te rends compte, je vais faire du mal à cause de tout ce qu'on m'avait dit, quoi. Et puis, j'arrive, je te frappe à la porte. Le mari n'était pas au courant de cette histoire. Il m'accueille. Oh, c'est bien, tu viens voir ma femme. Je dis oui, mais moi, je savais pourquoi je venais. Et le pasteur était là et il attendait. Et puis, il dit, dis à cette femme ce que tu m'as dit, comme ça, brutalement. Et j'ai commencé à expliquer ce que Dieu m'a montré avec une voix qui tremblait. Puis, j'ai commencé à dire ce qui s'est passé. Un grand silence. Et cette femme s'est mise à parler et a dit, écoute Hervé, il n'y a que toi et Dieu qui le savaient. Personne ne le savait. Ça faisait plus de 30 ans. Personne ne le savait. Elle dit, je veux te remercier. Parce qu'enfin, tout est mis à la lumière. Cette femme ne demandait que le confier pour pouvoir être libérée de son péché. C'est fou, n'est-ce pas? Rendez-vous compte, quand Dieu vous parle et qu'au travers de sa pensée qui vient en vous, des fois vous vous mettez à pleurer et puis vous ne comprenez pas. Allez plus loin pour écouter qu'est-ce que Dieu veut dire, pour apprendre à cerner ce que Dieu veut. Et après que j'ai dit ça, le mari, donc, l'apprenait, et il n'était au courant de rien. Il croyait que sa femme avait été enceinte, qu'elle avait perdu le bébé. Donc, c'était terrible pour tout le monde. Et puis, le pasteur, il était très pâle à ces moments-là. Avant, il était fort, après, il n'était plus, parce qu'il dit, mince, Hervé dit la vérité. Et puis, Dieu m'a permis, au travers de ça, d'aller jusqu'au bout de cette pensée. C'est-à-dire que Dieu m'a demandé... À un moment donné, elle était repartie à l'hôpital, son cancer est très grave, c'est un cancer du foie, ça fait très souffrir énormément. Et puis, je suis allé dans l'hôpital au moment où Dieu m'a dit, maintenant je la reprends, je veux que tu sois à côté d'elle. J'ai dit, Seigneur, écoute, je ne veux pas avoir des histoires. Alors je préviens le pasteur, je vais aller là-bas, si vous voulez venir. Et puis, je suis arrivé, et puis elle était dans son lit là, le mari était là, le pasteur était là. Et elle m'appelle, et je vais m'asseoir à côté d'elle, elle prend mes mains, puis elle dit juste, Hervé, je te remercie parce que je sais qu'aujourd'hui je suis pardonné de mon péché, et aujourd'hui je vais avec lui dans le ciel. Et Dieu m'avait montré que c'était l'heure. Donc, en me disant tout ça, d'un seul coup, son esprit l'a quitté, et c'est incroyable comment Dieu nous amène à aller jusqu'au bout avec les choses. Et je l'ai vu partir d'elle. Je peux expliquer ça parce que c'est extraordinaire. Son esprit quitter son corps et partir vers Dieu. Et une paix extraordinaire. Et ça s'est passé avec moi. C'est comme si Dieu me disait, tu vois Hervé, parce que tu m'as obéi, parce que tu as dit ce que je t'ai demandé, aujourd'hui tu peux voir la joie qu'il y a dans le ciel parce qu'elle est avec moi. Et c'était formidable. Alors après, quand elle avait rendu et qu'elle était partie, j'ai appelé vite le mari, je dis, viens à côté d'elle, c'est pas ma place, c'est ta place. Et puis je les ai laissés avec le pasteur et je suis parti. Mais de montrer comment Dieu veut nous apprendre à communiquer avec lui pour transmettre les choses qu'il a sur son cœur. Rendez-vous compte, si on commence à vivre toutes ces choses, c'est incroyable, l'Église, elle devient vraiment le corps de Christ, quoi. Et on est chacun ses membres. C'est formidable. Je crois que Dieu veut nous apprendre à communiquer avec lui. On peut faire aussi des affaires ensemble, le business. Moi, je crois que Dieu veut nous apprendre à faire des affaires ensemble avec lui. Je crois que là, on a beaucoup de succès quand on fait ce que Dieu nous montre. Je vous ai parlé de ce gars de Perpignan, mais je vous en parle d'autres peut-être pour vous montrer. J'étais au Mali, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Mali, en Afrique noire, et puis dans l'Ouest. Et puis j'étais au Mali. Et puis j'étais dans une école, et puis j'enseignais dans cette école, et là il y avait beaucoup d'autres choses. Il y avait des écoles normales, mais il y avait aussi des écoles de disciples, il y avait aussi des formations pour des gens dans le travail, puis il y avait un gars qui était dans la couture. Je ne sais pas, vous connaissez ça. Et c'était un pasteur, et lui il avait à cœur d'enseigner les femmes pour pouvoir qu'elles fassent de la couture, qu'elles s'en sortent et qu'elles vivent dans leur pays. Donc il était là, puis je vais les voir, j'allais voir chacune de ces choses. Il y avait un atelier mécanique, il y avait plein de choses, ils apprenaient plein de choses pour les Africains, pour qu'ils puissent gagner leur vie. Et j'arrive et je lui dis au gars, je dis, écoute, dans quelques jours, tu vas avoir une commande du gouvernement pour habiller tous les enfants de toutes les écoles dans des tenues pour chaque école différente pour qu'on puisse les reconnaître. Il faut être fou pour dire une chose pareille. Je lui dis ça, le gars, il a ri. Et puis, j'étais encore là-bas, deux jours après, le gouvernement l'appelle pour faire ça. Ça fait qu'il a commencé à acheter des machines à coudre et il a acheté de cet endroit où il apprenait plein de gens qui étaient en train de faire pour les écoles des tenues avec des couleurs différentes pour réussir. Puis, ça, c'était l'année-là que j'étais. Je suis retourné deux ans après, et là, je revois le gars, et je lui dis, toi, maintenant, tu vas arrêter. Tu vas t'occuper de ton église, il était pasteur aussi, mais tu ne vas plus t'occuper de la couture, parce que Dieu va amener un styliste, quelqu'un qui va venir pour apprendre à faire des coutures de robes de, comment on dit, de la haute couture, voilà. Et puis, je lui dis ça, il n'appréciait pas parce qu'il n'avait pas envie de quitter. Même pas deux semaines après, un gars qui est styliste, très connu là-bas en Afrique, qui vient et qui prend sa place. Et ils ont commencé à former des gens pour faire des robes qui ont fait des défilés. Et ils ont réussi à avoir des prix. Et après, cet endroit qui était avec trois femmes qui apprenaient à coudre, maintenant elles faisaient pour certaines des choses, des robes pour des stylistes, pour pouvoir défiler, pour pouvoir être vendu très cher. C'était un gars qui était diplômé et tout, et Dieu l'a envoyé, c'est fou. Et ce gars était chrétien, quoi. Et il était dans son coin, et Dieu l'a fait amener là. Vous voyez les plans de Dieu, comment ils sont incroyables. Quand Dieu nous utilise, on peut voir des choses qui n'existent pas comme si elles existaient, n'est-ce pas ? Et Dieu veut nous apprendre à discerner, à communiquer avec lui, travailler avec lui. J'étais en France maintenant, je peux expliquer aussi peut-être, un homme qui est dans les affaires, qui a une ferme, il est agriculteur et en même temps il est pasteur, il faut le faire quand même, c'est super. Et il a une ferme avec 150 ou 200 000 poules pondeuses, il a 200 vaches, allez, il a maintenant 300 ou 400 hectares de terre. Il fait lui-même ses cultures pour les poules et tout. C'est vraiment des choses formidables. Cet homme, tous les matins, avant de partir à son travail, il se met devant Dieu et dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire là? Et il a commencé avec 10 vaches. Et maintenant, il est à tout ce que je vous ai dit. Et c'est un homme qui vend des œufs à l'Angleterre, dans le monde entier. Des camions semi-remorques dans son petit village viennent chercher des œufs. C'est de la folie. Comment Dieu peut nous amener à vivre dans les affaires des choses extraordinaires? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs dans son coin qui finissent en dépression parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils achètent leurs fermes et leurs terres, et ces mêmes gens, il est dit, vous travaillerez dans ces terres et vous ne serez jamais dehors et vous aurez une retraite. Ils les payent. C'est fou! Quelle est la mentalité du royaume de Dieu? C'est d'arriver à marcher en sens contraire de ce que l'on vit sur la terre, d'arriver à avoir la pensée de Dieu. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un de ses fils, et je ne savais pas qu'il était dans l'église où je parlais, et je ne savais pas que c'était son fils, et quand je racontais cette histoire, il dit, eh, c'est mon père! Et lui, il a réussi dans les affaires aussi, incroyable, parce qu'ils ont été élevés comme ça, appris à écouter Dieu. Et pourtant, c'est une assemblée de Dieu qui marche complètement différemment. L'église, elle est plus que pleine, quoi, parce qu'il apprend à écouter Dieu. Et il embauche plein de gens dans sa ferme. Je crois que Dieu veut nous apprendre à faire des affaires avec lui. On pourrait en raconter beaucoup d'histoires comme cela. Dieu veut révéler les choses, il veut nous apprendre à travailler avec lui et à marcher avec lui. C'est important. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la prière et je repense à quelque chose que j'ai vécu. Vous vous rappelez, moi ça fait longtemps ça, mais c'était en 1991. Je faisais une école biblique, donc j'apprenais dans cette école. J'avais quitté ma femme, mes enfants, j'étais parti à... au bout de la France, j'ai habité dans le nord et c'était dans le sud de la France où je suis allé. Et puis, j'ai fait cette école biblique, il fallait que je quitte tout, j'ai obéi à Dieu. Et puis, je suis allé là-bas. Et puis, on m'a logé dans une famille, un homme qui avait plusieurs enfants, pour dire que, voilà, je vis dans une famille plutôt que d'être logé dans l'école biblique. C'est juste pour moi qu'ils ont fait ça, c'était sympa. Alors, le gars construire dans son grenier, une chambre exprès pour moi, avec douche, tout. Il avait fait ça, super. Cet homme, c'était un professeur, et qui était professeur dans les niveaux supérieurs de maths, dans les grandes écoles, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis, il avait fait ça. Et puis, une nuit, juste pour vous raconter comment ça s'est passé, une nuit, moi, déjà, je n'étais pas tout jeune quand j'ai fait cette formation, donc, quand j'écoutais à l'école biblique, je notais tout, et je rentrais le soir, je recopiais de nouveau tout pour que ça rentre bien. Voilà, il fallait ça pour moi. Voilà pourquoi je copie beaucoup. J'ai gardé cette habitude. Je ne sais pas trop faire vite à l'ordi, mais voilà. Il me faudrait un secrétaire pour me faire tout ça, mais moi, je ne sais pas faire, mais j'écris. Et puis, j'étais fatigué un soir, mais alors complètement à plat. Puis je dis, écoute, Seigneur, je ne peux pas ce soir, il faut que je dorme. Je veux dormir, je suis trop fatigué. Puis je me couche et... je m'endors tout de suite, j'étais très très fatigué. Et puis, en pleine nuit, j'entends... je dis, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, je dis, c'est pas possible, il y a des gens dehors qui font du bruit, mais moi j'ai sommeil, je veux dormir. Et je mets la couverture et je me rendors. Et de nouveau le bruit. Je dis, c'est pas possible. Et je suis allé dans la pièce, il y avait un vasistaste, vous savez... qui est comme ça, sur les greniers, comment on appelle ça. Et puis, je monte sur la chaise pour regarder dehors s'il n'y a pas des jeunes qui font les fous, quoi. Et en fait, il n'y avait personne. Et puis, je dis, c'est pas possible. Je me recouche, de nouveau le bruit. Je dis, c'est pas possible. Seigneur, fais que ça s'arrête. Et j'entends Dieu qui me dit, Hervé, lève-toi et prie. Je dis, Seigneur, je suis crevé. Ça, c'est comme ça qu'on est, des êtres humains. Et puis, il me dit, Hervé, lève-toi et prie. Il y avait sur le cœur de Dieu quelque chose d'important pour le moment précis. Alors, je dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi tu veux que je prie aucune réponse. Alors, je prie en nom. Et à ces moments-là, vous allez rire ce qui s'est passé. J'ai été transporté en esprit au-dessus d'un pays, et je voyais le pays, et j'étais bien assis, hein, où j'étais, et puis je vois un pays et des gros avions qui bombardaient un pays. Et puis je voyais les bombes qui passaient au travers de moi. C'était incroyable, quoi. Et puis je dis, et d'un seul coup, en bas, alors je priais toujours pour ces gens, et je vois des gens qui étaient en bas, qui criaient, « oh Dieu, viens à notre secours, on va mourir, au secours, on va mourir. » Et je vois ces gens, je vois leur visage. C'est fou, tout en étant toujours assis au même endroit. Et puis, je prie pour eux, « Seigneur, protège-les, mets ta protection. » Enfin, je priais comme mon cœur ressentait, puis d'un seul coup, tout s'arrête. Et là, je dis, « Ouf, je suis fatigué, Seigneur, il faut que j'aille me coucher. » Il y en a qui n'auraient pas pu redormir. Moi, je suis allé me coucher, j'ai redormi. Et le lendemain matin, je me lève assez tôt, donc je descends, et le professeur était en train de faire des corrections. Donc, il était déjà là. Il me dit, « Hervé, t'as bien dormi ?» Oh, je dis non, et je raconte mon histoire. Et lui, il devient pâle. Il me dit, « Mais Hervé, tu racontes ce que la radio vient de dire. » Je dis, « Ah bon, qu'est-ce qu'elle a dit, la radio ?» Moi, je n'avais pas de radio là-haut. Alors, la radio disait, c'est en 1991 qu'il y a eu un bombardement sur l'Irak. Vous vous rappelez les Américains qui ont bombardé l'Irak? Et puis, il y avait des... Alors, je voyais des gens, j'explique tout, monsieur qui était en bas et qui criait « Au secours, au secours !» Et puis, il dit « Oh là là, même Dieu, il est venu... » Lui, il était tout fou, il dit « Dieu, il est venu parler dans ma maison. » Bon, partout où tu es, mais il était rigolo. Et puis, donc, j'ai dit oui, mais il était tout content pour ça. Puis, les jours passent, les années passent, j'ai rien... Mais Dieu veut nous montrer les résultats de nos prières. Je crois qu'il faut aller bien plus loin. Alors, 10 ans après, je me retrouve dans une église à Bordeaux. Une église, je suis allé qu'une fois dans cette église. C'est une église baptiste, moitié charismatique, peut-être. En tout cas, je n'en savais rien. Et je raconte mon histoire. Puis d'un seul coup, le pasteur, il fait comme ça. Je dis, pourquoi il fait ça? Vous imaginez quelqu'un devant vous qui fait ça? Alors, tu regardes la main où elle va, puis je regarde plus loin, puis des gens qui font comme ça. Je dis, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Et les gens se lèvent, qui étaient là-bas, et en fait, c'était des Kurdes, et je reconnais leur visage 10 ans après. Ces gens qui criaient, et ils disent, c'est nous qui disons Seigneur, et la voix, la même. Je dis, mais Seigneur, c'est incroyable. À cause d'une prière, parce que j'ai prié selon le cœur de Dieu, ces gens ont été sauvés. Pas à cause de moi, mais parce que j'ai laissé l'Esprit de Dieu. Ils cherchent des intercesseurs en esprit, en vérité. Vous voyez, apprendre à travailler. J'étais pourtant vachement fatigué. Mais c'était le temps de Dieu. Et je crois qu'on doit apprendre à travailler avec lui et à collaborer avec lui. Je crois que c'est important. Dans l'évangélisation aussi, vous pouvez aussi travailler avec le Seigneur. Évangéliser, c'est bien, on a des tas de formules d'évangélisation. Moi, j'en ai fait beaucoup avec des listes, votre nom, votre prénom, vous avez les fiches. On fait des tas de choses, des grandes campagnes. J'ai fait aussi tout ça, hein. J'ai cru que c'était juste tout ça, et c'était juste quelque part, et en même temps, où il était Dieu, quoi. En fait, on faisait tout un système. Et Dieu m'a appris à travailler avec lui dans ce mode de travail. Et c'était à Montpellier, donc quand j'ai ouvert une église à Montpellier. Et j'étais dans cette église et en fait, j'avais prévu en tout cas d'enseigner des jeunes à évangéliser. Et j'allais le faire avec ma méthode, c'est-à-dire la méthode des questionnaires, comme j'avais appris, quoi. Et puis je dis, on va aller sur la place de la Comédie, pour ceux qui savent où c'est là où il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de cafés, tout le monde est là, quand il fait bon, au printemps, même à l'été, c'est super d'aller sur cette place. Et Dieu me dit, mais Hervé, si tu veux, tu peux prendre tes feuilles, mais tu vas aller sur cette place avec tous les jeunes. Et quand tu arriveras sur la place en file indienne, comme cela, j'oublie. Dès que vous mettrez le pied sur la place de la Comédie, je vous enverrai tous ceux qui doivent être sauvés. Ça, c'est formidable quand même. C'est une évangéliste, c'est radical, ça, vraiment. Et alors, j'obéis. Les jeunes, ils m'ont dit, tout, tout. Quoi, Hervé, peut-être il avait disjoncté, je ne sais pas. Mais en tout cas, il m'obéit quand même. Et puis on est allé, et au moment où on met notre pied, les gens venaient vers nous, ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? On ne leur avait même pas parlé de Jésus. Mais pourquoi? Parce que c'est plus lui qui vit, c'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Ça veut dire qu'au travers de nous, il y a quelque chose qui émane de Dieu. Et si on obéit à Dieu, eh bien, il va manifester son royaume au travers de nous. Et c'est pour ça que cette église a tellement vite grandi aussi là-bas. Et il y a eu beaucoup qui sont allés, qui se sont convertis, comme je disais tout à l'heure encore, il y en a beaucoup que j'ai mariés, beaucoup qui sont sortis de plein d'endroits difficiles, que Dieu a changé leur cœur et a fait d'eux des disciples, des serviteurs maintenant. Et je crois que oui, Dieu est en train de nous apprendre, même à évangéliser avec lui. Je vous raconte, je ne suis pas trop en retard, ça va ? Ça va. On fera les cours, on fera l'enseignement après pour faire pratique. Mais je me rappelle, avant d'ouvrir l'église à Montpellier, juste on reste comme ça dans le même secteur, je me rappelle de quelque chose que Dieu m'avait montré. On devait aller deux par deux. Vous savez, ce passage de Luc 10 qui disait aller deux par deux dans chaque ville. Et puis, donc, on devait aller et entre Royan et l'autre côté, donc Nîmes, ici. Et puis, on allait deux par deux. C'était Philippe Jouret qui avait eu cette idée-là. Et puis, moi, on m'avait choisi pour aller à Montpellier avec quelqu'un. Le but, c'était d'aller voir tous les ecclésiales, évêques, tous ces gens. Et puis, essayer de voir quel est le degré de spiritualité, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce qu'éventuellement Dieu voudrait que l'on fasse. Puis, on avance comme cela, et puis, j'en avais ras-le-bol d'aller voir les ecclésiales. Quand j'arrivais à l'évêque, avec tous ces saints malalais, oh là 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 là, j'en pouvais plus, c'est pas mon truc, quoi. Mais mon ami était vachement heureux avec ça, il discutait avec tous ces gens, et il aimait ça. Je dis, écoute, toi tu fais ça. On avait un autre travail, c'est d'aller dans chaque quartier avec ce fameux questionnaire pour voir le degré de spiritualité. Là, c'était du concret pour moi. Alors, je vais, premier quartier, je vois une personne, je regarde ma feuille, je la regarde, elle tombe à genoux, elle dit « qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvée ?» Je dis « je ne vous ai rien demandé ». Alors, j'ai dit ça alors. Bon, bref. Cette personne se convertit, c'était la première chrétienne. Puis après, j'avance dans un autre quartier. J'ai dit, c'est peut-être le hasard. Un autre quartier, j'y vais. Et là, je demande le nom. La personne donne son nom. Et puis, elle se met à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez ? Elle était convaincue de péché. Elle voulait donner sa vie à Christ. Et oh, j'ai dit, c'est pas possible. Ça fait deux quand même. Puis là, je dis, je vais dans un quartier où vraiment, c'est le pire de tous à Montpellier, c'est là où il y a le plus dur, ça ne va pas marcher. Pour Dieu, rien n'est impossible. Je vais dans ce quartier, la même chose, les gens se convertissent. Je dis ça alors. Alors, on n'avait pas encore prévu de faire des réunions, et comme on longeait dans une maison, j'ai fait amener tous les gens dans cette maison, et on a commencé à faire la première réunion. Puis, voilà, comme ça, Dieu m'a montré que dans chaque quartier, et là Dieu me dit, mais Hervé, il faut que tu ouvres quelque chose, quoi. Alors je vais prévenir quand on fait le rapport, mon ami parle des ecclésiales, de ce bon, moi j'ai dit, j'avais hâte de dire ce que j'avais vécu, quoi. Alors d'un seul coup, je dis, ben voilà, là-bas il y a des gens, plein de gens, il dit, il faut commencer une église. Alors on m'a dit, ben Hervé, vas-y. Et je suis parti. Et je suis allé dans cet endroit-là et j'ai commencé à ouvrir l'église et c'est là où il y a eu beaucoup de conversions. Je me rappelle, en même pas un an, il y a plus de 100 personnes. Comment Dieu, quand on est dans son plan et qu'on écoute sa voix, la manifestation du royaume se fait. Donc c'est important. Puis il y a aussi notre caractère et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Ça, je suis en train de le travailler, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais je crois que devenir à l'image de Christ. Je ne sais pas si vous êtes... On ne vous a pas déjà dit « Ah, qu'est-ce qu'il y a en toi qui est différent des autres ?» Vous n'avez jamais eu ça ? C'est extraordinaire. Alors qu'on n'a pas encore parlé, quoi. Tu es différent. Tu penses pas comme les autres. Mais ça, c'est l'esprit qui est en nous, qui jaillit au travers de nous. Et c'est ça qui est important. Et souvent, ouais, Dieu veut nous apprendre à pouvoir travailler continuellement avec lui. Alors, il y a beaucoup de domaines. J'en passe des choses, j'en passe. Mais peut-être un autre domaine quand même. Là, c'est tout récent. C'était, vous savez, comme je suis souvent en avion, donc en avion, il y a des fois aussi des perturbations dans l'air. Et là, je revenais de Nantes vers Toulouse. Et en arrivant à Toulouse, c'était cet été, il y avait un orage terrible. Le pilote dit, attachez vos ceintures, ça bougeait. Ben alors, ça bougeait vraiment. Ce n'est pas des petits bouges, mais ça, terrible. Les stewards, on leur a prié d'aller s'asseoir, ils ne sont jamais plus allés s'asseoir à leur place. Ils se sont glissés sur les gens, les trucs. Puis ils se sont mis comme ça. Impossible, tellement ça bougeait. Et puis, la folie d'Hervé. Il fallait vraiment que ça soit de Dieu. Je défais ma ceinture, ne le faites pas comme ça. Hein. Je défais ma ceinture, je me lève et je prends autorité sur le prince de l'air. Je dis, prince de l'air, tu arrêtes maintenant. Et tout s'est stabilisé, plus rien. Tous les gens me regardaient et ils baissaient la tête. Quel est cet homme à qui la tempête lui obéit? Si vous avez l'Esprit de Dieu, il nous a donné l'autorité sur la nature et sur toute chose aussi, n'est-ce pas? Je t'ai donné toute autorité et tout pouvoir. C'est le même Esprit qui est en Jésus-Christ. Alors, c'était rigolo parce que j'étais au milieu de l'avion. Et normalement, pour descendre, il faut attendre que tout ce devant ou tout ce derrière parte. Donc, tu arrives quand tu es au milieu, tu es le dernier. Et là, personne ne se levait. J'ai descendu le premier, on m'a laissé passer, on faisait tourner des courbettes. Et puis, quand je suis sorti, l'hôtesse a dit « Oh, merci !» Mais en fait, ils ne se rendaient pas compte comment, quand vous êtes quelque part, l'autorité que Dieu vous donne, cette puissance que Dieu vous donne, et si vous croyez simplement à ces choses, si vous croyez réellement que c'est Jésus-Christ qui vit en vous, tout cela est réalisable. Sinon, Christ aurait fait tout ça pour rien, quoi. Et c'est même pas la peine de lui appartenir. Parce qu'on serait comme le monde. Non. Quelle différence y a-t-il entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas? Et ça, c'est une différence. Vous comprenez? C'est tellement important. Dieu veut nous apprendre ces choses. Oh, il me revient une idée, là. Tant pis, encore une histoire. J'étais en train d'aller à Toulouse, cette fois, Et j'allais pour aller à la librairie biblique, CLC, là-bas. Et puis, je dois traverser la place du Capitole pour aller de l'autre côté. Donc, j'avais garé ma voiture là. Et qu'est-ce que je vois? Des stands et des gens qui étaient là. Et c'était des chrétiens qui étaient en train d'évangéliser. Et ils évangélisaient sur cette place au-dessus du parking, là. Ils s'étaient autorisés. Puis moi, je les vois, je dis, waouh, c'est super ce que vous faites, quoi. Et puis ils me disent, Hervé, tiens, prends la Bible, prêche. Mais je dis, attends, je m'en vais à la librairie biblique, je ne viens pas, vous êtes assez nombreux. Pourquoi il m'a-t-il dit ça? J'avais la Bible dans les mains et je ne savais plus quoi faire avec. Et je dis, tant pis. Et j'ai commencé à prêcher. Écoutez, au moment où j'ai commencé à parler de Jésus, la foudre est tombée du ciel, je vous assure. Une pluie si forte. Tous les chrétiens se sont mis à l'abri, j'étais tout seul, sous la flotte, en train de prêcher l'évangile. Tous les gens étaient partis, sauf deux personnes qui étaient là, et moi. Et je leur parle, ces gens, c'était des gens qui étaient dans l'occultisme, qui ont pignon sur rue à Toulouse, comme des voyants très importants, que beaucoup de gens consultent, même des grandes autorités. Et ils étaient face à moi. Et j'étais en train de prêcher l'évangile et eux étaient en train de prier pour me tuer. Parce qu'il fallait que j'arrête. Et la confrontation de puissance était là. Mais c'est ça qui se passe. Mais mon Dieu est plus grand que tout cela. Et ces gens, sous la flotte, et moi, bouleversés, se convertissent avec moi. Les deux. Mais qui êtes-vous? Celui qui est en vous est plus grand que celui que nous nous invoquons. Qui est-ce celui que vous invoquez? Je dis, c'est Jésus. J'arrête pas de vous en parler. Mais on veut le connaître et c'est comme ça qu'ils se sont ouverts. Mais pourquoi? Moi, j'avais rien prévu de prêcher. Mais regardez comment être disponible avec Dieu dans les moments qu'il le faut et dans les instants. Je voudrais vous faire comprendre cette collaboration avec lui, qui est si importante. Puis, il y a le domaine de la guérison, on pourrait en reparler aussi, mais ça, c'est un domaine qu'on pourrait expliquer aussi si on a du temps, mais la guérison. Souvent, quand on prie pour les gens, on dit « Seigneur, bénis-le, guéris-le ». Ouais, mais c'est pas suffisant. Arriver à apprendre et écouter, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Comment tu veux que je prie pour la personne? Et Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui comme ça aussi. Et quand vous priez pour les gens, il y a réussite à 100% parce que vous touchez la cible qu'il faut. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas faire comme cela, comme des religieux, on a dit tout à l'heure. Et souvent, on veut faire avec nos propres forces et puis l'Esprit de Dieu. C'est la religion, mais la religion, Jésus, il a jeté. Combien on a des fois beaucoup prisonniers de cet esprit de religion qui nous amène à vivre des choses, des habitudes. Ça, c'est toujours fait. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Revenir au texte et accomplir ce que Dieu nous montre. Je crois que Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui, à manifester le royaume sur la terre, même dans des petites choses comme dans les grandes choses. Dieu est partout. Il est avec nous continuellement. Vous comprenez cela? C'est très important. Donc ça veut dire que toute personne, qui qu'elle soit, peut travailler avec l'Esprit de Dieu. Dieu peut parler au travers de chacun. Je vous raconte encore une histoire. Dieu veut me montrer par des situations aussi bizarres. J'étais dans une église mennonite où il y avait la moitié charismatique et l'autre moitié pas. C'est terrible. Alors, au moment où j'arrive, je me sentais mal. J'ai dit, Seigneur, je sentais l'opposition si forte contre moi. J'ai dit, mais que veux-tu que je fasse? Mais pourquoi j'ai accepté d'être là? C'était dur pour moi. Et d'un seul coup, Dieu saisit plusieurs jeunes de 12 ans, 13 ans. Dans la salle, ces jeunes arrivent, je n'ai rien demandé. Ils se mettent autour de moi. Ils se tournent vers les gens et ils prophétisent. Et c'était les enfants de ceux qui étaient contre le Saint-Esprit. Et moi, j'en savais rien. Et là, c'est comme si Dieu dit, mais Hervé, ne crains pas, je suis là, toi. Regarde, je fais ce que je veux comme je veux. Et ces enfants, ils disent, et après, j'ai dit aux gens qui enseignent dans les écoles du dimanche, je dis, mais c'est vous qui leur enseignez cette sensibilité? Ah non, 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 nous, on n'y est pas du tout. Mais ils nous dépassent, ils nous enseignent, et ils commencent à enseigner. Et dans les jours qui ont suivi, ils enseignaient les professeurs, ceux qui devaient leur enseigner. Ils leur montaient comment travailler avec Dieu, comment être sensible au Saint-Esprit, alors qu'ils n'avaient jamais rien appris. Mais ils vivaient, et Dieu parlait au travers de leur cœur. Je crois que Dieu veut nous apprendre comme cela, il nous surprend. Moi j'aime vivre des choses extraordinaires avec Dieu et être surpris. Parce qu'on a besoin de cela pour que notre foi soit accrochée qu'à lui seul, n'est-ce pas? Et non pas sur ce que je sens ou ce que je ressens, c'est sur ce que lui veut que je vive. Parce que quand je ne suis pas bien, sinon je ne verrai rien. Mais non, c'est quand je suis faible que je suis fort aussi. Ça veut dire que c'est dans ces moments-là où Dieu va manifester sa puissance. C'est formidable. Je crois que Dieu va nous apprendre à vivre ces choses avec lui. Vous savez, quand il y a eu le réveil au pays de Galles, c'est Evans Roberts. Et il était là dans la salle, j'ai lu ses écrits, et il y avait la louange, il n'avait rien préparé, mais il était assis comme ça. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je dise? Et au moment où il parlait, c'était ce que le cœur de Dieu voulait. Et je vous assure qu'à chaque fois, il y avait la bénédiction. Parce qu'il était sensible à l'Esprit de Dieu. Et non pas à ce qu'on lui dira de faire ou de ne pas faire, c'est formidable. Je crois que c'est très important. Dieu veut nous apprendre à vivre avec lui, à dépendre de lui, à être des signes, des présages, par des actes, par des mots, par des gestes inspirés par l'Esprit. Pour ce monde qui est autour de nous, on est ses messagers et nous sommes appelés à démontrer le ciel sur la terre. Et vous voyez qu'on a besoin d'être transformé comme le vélo. Apprendre à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude, mais qui sont tellement la vérité, parce que c'est comme la parole de Dieu le veut, quoi. En fait, la période des actes n'est pas terminée. C'est peut-être le seul livre qui n'est pas terminé. Vous pouvez écrire à chaque fois que vous vous rassemblez une nouvelle page des actes. Il s'est passé à Martin Luther King telle et telle, telle chose. C'est vrai. Vous savez, il y a Martin Luther King justement qui me fait penser à ça. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, la foi, c'est de mettre le pied sur la première marche sans connaître le reste de l'escalier. Et c'est ça la dépendance avec Dieu, je crois. Et je trouve qu'il avait la réponse la plus jolie et la plus vraie. On a critiqué cet homme, mais pourtant, cet homme avait vraiment cette foi en Dieu. Il ne savait pas, il est allé jusqu'à l'élection d'être président d'un pays. Mais c'est formidable. Je dis, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Dieu peut nous amener dans des situations pour changer une nation et un pays. J'ai eu à le faire à des présidents de la République et à des ministres qui obéissent ou pas obéissent. Je vous en raconte une, juste comme cela. Vous connaissiez M. Jacques Chirac. M. Jacques Chirac, c'était l'homme le plus peureux qui puisse exister en tant que président. On ne le connaît pas sous cet aspect-là. Et Dieu me dit, je veux que tu ailles lui parler. J'ai dit, d'accord Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire? Et quand Dieu me montrait la chose, je dis, ah non, là tu peux prendre quelqu'un de plus érudit que moi, parce que moi je vais me trouver devant lui, il va me casser. Puis de toute façon, je ne pourrai pas l'approcher. On ne me laissera même pas l'approcher. Je dis alors, Seigneur, non. Dieu me dit, Hervé, je te l'amènerai dans ta ville à Carcassonne. Je dis, écoute Seigneur, qu'est-ce qu'il viendra faire dans notre ville à Carcassonne? Et je discute avec Dieu comme ça. On peut discuter, hein. On n'est pas toujours d'accord, mais il a toujours raison au bout du compte, hein. C'est ça le plus. Et puis, donc je discute et Dieu me dit, voilà, tu vas lui offrir un cadeau, un livre, mais tu vas mettre un mot. Et sur ce mot, tu mettras, celui qui construit la maison et qui la construit sans Dieu, la bâtit en vain et sa fin sera la folie. Je lui écris ça, puis il vient justement à Carcassonne. Je dis, ça alors, Seigneur, j'ai plus le choix, quoi. Il faut que j'y aille. Mais je dis, je ne pourrai pas, ils vont m'empêcher. En fait, il a tellement bien organisé les choses, il le faisait dans la cité pour épater. C'était le rassemblement de la francophonie, vous savez, pour épater tous ces gens dans la cité. Et puis, cet homme avait tellement peur qu'il est venu avec 3 avions. Avec ses tables, ses chaises, ses assiettes, ses serveurs, son cuisinier, il avait tellement peur d'être empoisonné. Je vous assure, 3 avions au frais de nous tous. Et puis, il est arrivé là, dans la cité. Tous les gens qui étaient là dans la cité qui font « Bravo, monsieur le président !» En fait, ils sont choisis pour qu'ils disent ça. Je vous assure. Et presque payés pour qu'ils puissent dire ces choses. Mais alors, je vais peut-être loin dans ce que je dis, mais je vous assure que c'est vrai. Donc, j'avais aucune chance. J'étais pas choisi. Et Dieu me dit, tu vas aller à la mairie de Carcassonne, parce qu'il va d'abord aller à la mairie de Carcassonne. J'ai dit, mais Seigneur, tu as vu toute la police partout et toute l'armée? Mais je vais mourir. Et Dieu m'a dit, tu prends le livre comme ça dans tes mains, avec le mot, et tu avances comme ça. Mais je dis, Seigneur, ils vont me voir avec ça, ils vont me tirer dessus. Et j'obéis, j'avance. Je connaissais très bien le maire de Carcassonne. Il était déjà venu dans notre église. Puis, j'arrive, des policiers partout, des gens avec des lumières rouges là qui ont des fusils, qui tirent, puis partout, tout le long. Et je passe, personne ne me dit rien. J'arrive devant la porte de la mairie, il y avait des gardes de chaque côté, j'ouvre la porte, personne ne me dit rien. Je monte les escaliers, je vais directement au bureau du maire. J'arrive en haut, des gardes de chaque côté, je frappe. Et là, secrétaire de mairie, il arrive, il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Puis alors, il insulte les policiers parce qu'ils m'ont laissé rentrer, quoi. Et eux, ils disent, mais non, il n'y a personne. Enfin, si, j'étais là, quoi. Mais eux ne m'ont rien vu, quoi. Et pourtant, moi, je me voyais bien que j'étais là, mais eux ne voyaient pas. Et puis, et je dis, mais je suis venu pour donner un cadeau à monsieur Chirac. Alors, ils disent, non, mais n'importe quoi. Et puis, le maire reconnaît ma voix. Il dit, mais monsieur Guillois, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes fou, vous auriez pu vous faire tuer. Mais je dis, j'ai un cadeau pour monsieur Chirac. Mais il dit, écoute, il n'est pas encore là, mais moi, je lui donnerai en particulier, parce qu'il va venir dans quelques instants, et je repartirai de toute façon en avion avec lui à Paris. Donc, j'étais un grand ami à lui. Donc, il l'a pris et il dit, je lui donnerai, je vous assure. Je m'en vais, je repars, et là, je tremblais. Je transpirais de tous côtés, tellement j'étais mal dans moi. Puis, je rentre chez moi, je dis, oh Seigneur, plus de choses comme ça, c'est trop dur. Quelle épreuve. Et puis, après, le maire revient, je retourne voir le maire, mais plusieurs jours après, il est revenu à Carcassonne. Je dis, vous lui avez donné, je n'ai pas de retour. Ah oui, il a jeté le papier comme ça, et le livre, il a dit n'importe quoi. Et aujourd'hui, il a perdu la tête. C'est exactement comme le mot qui avait été dit. Et moi, à ces moments-là, je ne savais pas que ça allait arriver. J'ai juste écrit ce que Dieu m'a dit d'écrire. Vous voyez, Dieu avertit. Il y a toujours une possibilité et une chance pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et vous êtes les messagers de Dieu pour transmettre au monde ces belles choses que Dieu a prévues. Vous vous rendez compte? Et je ne crois pas qu'il y ait de grands ou de petites personnes. Bien sûr qu'il y a des ministères, mais il y a une obéissance à Dieu, tout simplement. Et je vous ai dit exprès tout à l'heure, et c'est la vérité, ces petites filles et petits gars qui sont mis autour de moi n'avaient jamais expérimenté la prophétie et ils se sont mis à prophétiser. Mais Dieu fait au travers de celui qui est disposé, celui qui veut, prêt à obéir à Dieu, prêt à manifester le royaume de Dieu sur la terre, comme il l'est dans le ciel. C'est tellement important. Je crois que, voyez, Dieu veut qu'on devienne comme lui il l'est, collaborer avec lui chaque instant, chaque moment. Et c'est vrai qu'il y aura des moments difficiles, il va y avoir des échecs. Mais c'est au travers des échecs qu'on apprend le mieux, n'est-ce pas? Regardez, un enfant, quand il naît, il apprend à marcher, il tombe, il pleure un coup, mais il se relève tout de suite, il repart. Parce que pour lui, son but était de continuer à courir. Et ça lui a fait. Mais si nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, on reçoit des choses et qu'on se trompe et qu'on arrête, ça ne sert à rien. Il faut reprendre tout de suite. On demande pardon à Dieu, on se laisse redresser et Dieu manifeste alors sa puissance au travers de nous. C'est drôlement important. Je ne sais pas quelle heure je dois finir, mais midi et demi, ça va. Nous sommes dans le bon temps. Alors. Hein? On peut faire une pause, ouais. Puis si vous avez de l'eau, moi j'aimerais bien boire un petit coup. Comme ça, je peux remettre mes papiers en ordre. Et ça va pour vous, jusqu'à maintenant? Oui. Je ne sais pas combien. Combien on fait? On fait combien? Un quart d'heure? Un quart d'heure. Le temps que vous buviez un coup. Et je retrouve mes...